Alors, Bezrat Hashem, nous commençons un nouveau shiur du Nitiv HaTorah du Maharal. Donc, on est toujours dans le Perek Zayin et on va reprendre en haut de la page Shin Chet.
Shin Chet,
en haut de la page Shin Chet, on s'est arrêté à la fin de la page Shin Zayin. Donc, on avait vu, en fait, dans le shiur précédent, on avait vu le fait que l'étude de la Torah doit être motivée par l'amour. Ça doit être l'ilmod Torah me'ahava, étudier la Torah par amour. Et donc le Maharal fait une transition à partir de là pour aborder un sujet qui est très important, qu'on avait déjà un petit peu effleuré dans le passé, mais auquel on va s'attacher de manière plus concentrée aujourd'hui, et dans les shiurs à venir aussi. C'est le inyan de Birkat HaTorah, les brachot qu'on fait donc, pour l'étude de la Torah. Donc le Maharal dit « Umipne ki limud HaTorah hi le'ahava » étant donné que l'étude de la Torah, mot à mot, c'est pour l'amour, c'est-à-dire pour l'amour de Dieu, comme on dit en français. Yesh lo levarech Hashem yitbarach al asher natan lanu haTorah. On doit bénir Akadash Baruch Hu pour le fait qu'il nous a donné la Torah. Vezehu ahava gmura kasher noten bracha le Hashem yitbarach. Et c'est ça un amour complet. Lorsqu'il va faire une bracha à Dieu, al shenatan haTorah le'amo Israël, pour ce qu'il nous a donné la Torah, pour le fait qu'il a donné la Torah au Am Israël. Et il dit juste après, on va revenir après en arrière après, ulfichar tiknu shalosh brachot à la Torah. C'est pourquoi on a institué trois brachot concernant l'étude de la Torah. Ve'akol shetiye limud haTorah me'ava, et tout ça, c'est pour que l'étude de la Torah soit motivée mot à mot par l'amour. Alors, dans la note 89, le Rav Hartman rapporte un certain nombre de textes qui sont intéressants. Je vais commencer par l'un des textes qu'il cite. C'est un texte qui se trouve dans le Derech Chaim, commentaire du Maharal sur Pirkei Avot, dans le Perek Aleph Mishnahe. Qu'est-ce qu'il dit là-bas ? Mi shenatan lo Hashem itbarach itromemut ma'ala ugdula. Celui à qui Dieu a donné élévation, hauteur et grandeur. Ou ohev Hashem itbarach, il va aimer Dieu. Bishvil itromemut shenatan Hashem itbarach elav, pour le fait qu'il l'ait élevé. C'est-à-dire que en nous donnant la Torah, Akadosh Baruch Hu nous a élevé. Et donc du fait qu'il nous ait élevé, donc on lui est comment dire en français, reconnaissant. Et on le bénit pour cela. Enze oved rak me'ava. Et donc du fait qu'il nous a donné cela, alors tout notre service divin va être un service par amour. Shiyesh levarech Hashem itbarach alatov shasa ito, parce qu'on doit bénir Dieu pour le bien qu'il nous a prodigué. C'est-à-dire que finalement, quelque part, Akadosh Baruch Hu nous a prodigué un bien gratuit. On n'a rien demandé. Il nous donne la Torah, il nous donne quelque chose qui va nous permettre de nous élever, de nous dépasser, etc. Comme on l'a vu de nombreuses reprises, que l'homme est enfoncé dans sa matérialité et que grâce à la Torah, on va arriver à accéder à des dimensions qui sont totalement, supérieures ou détachées du matériel. Et donc la gratitude que l'on éprouve vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, donc pour cela, se traduit par une bracha. Comme on dit, je te bénis, tu m'as fait une tova, je te bénis. Et ça vaut également dans le inyan de la différenciation entre Israël et les peuples. On dit Sheifdinan ou Minatoim et Natalanu Torah Temet. C'est-à-dire que, ici, le Maharal n'aborde pas ce sujet, mais il y a deux mahalot en plus dans le don de la Torah. C'est-à-dire qu'il y a une première mahala, c'est le fait que la Torah nous permet une itromemut, elle nous permet de nous élever, de nous grandir, etc., de nous transcender. Mais il y a une autre mahala dans Matan Torah, c'est Sheifdinan ou Natoim. Il nous a littéralement séparés, différenciés de ceux qui sont dans l'erreur. C'est dans l'introduction Sefer de Rav Saadia Gaon, Emunot Vedeot, où il pose cette question, je pense dans l'introduction tout au début du Sefer, il pose la question de, vous savez que dans la philosophie classique juive, on fait la différence entre les mitzvot sikhliot, les mitzvot rationnelles, et après il y a, selon les auteurs, il y a plusieurs autres catégories, mais en général il y a les edouyot et les chukim, on dit, il y a les sikhliot, c'est-à-dire les mitzvot rationnelles, ensuite il y a les mitzvot qui sont des edouyot. C'est des mitzvot qui sont des témoignages mot à mot, donc qui sont des mitzvot qui sont liés à l'histoire du Am Israël. Par exemple, Pessah, c'est lié à Matan Torah. Voilà, Purim, bon, c'est des Rabbanan, mais on va dire c'est lié à l'histoire de la Megillah, etc. Donc il y a des mitzvot qui sont des Edouyot. C'est des témoignages. Pourquoi on fait la Souka? Parce que Kadosh Baruch Hu nous a installés dans les nuées, etc. Et il y a une troisième catégorie qui sont des Chukim qu'on ne comprend pas. Paradouma, Shatnez, la Kashrut, enfin le Bassar Vechalav, toutes ces choses-là. D'accord? Donc maintenant, la question que pose Rav Saadia Gaon, elle est très intéressante. Il dit finalement, les mitzvot sichliot, si tu me dis que c'est des mitzvot qui sont rationnelles, qu'est-ce qu'il y a Kadosh Baruch Hu a besoin de nous les donner? On peut les déduire nous-mêmes. Donc, qui nous les, qui dit que c'est pas la peine de les donner. Si c'est de la, si c'est une religion, dans une religion, bon, c'est du culte, c'est de l'irrationnel, c'est du transcendantal, je sais pas comment il faut dire ça. Mais on n'est pas là pour te dire la manière de diriger la société, qu'il faut pas voler, il faut pas tuer, etc. C'est des choses que l'homme peut apprendre par son propre sechel. Et donc la réponse de Rav Saadia Gaon là-bas est assez exceptionnelle. Il dit qu'en fait, Hachem a fait un chesed avec le Ham Israël, et avec le monde quelque part, puisque les nations après ont appris du Ham Israël, c'est de faire gagner du temps. C'est-à-dire, il dit, c'est vrai que toutes ces mitzvot-là, on aurait pu les déduire rationnellement, mais comme dans le processus de la science, c'est étonnant de voir déjà que cette époque-là, il y avait cette conscience que la science, ça prend du temps. C'est-à-dire que pour faire des découvertes, il faut investir du temps dans la recherche. C'est pas du jour au lendemain, hein. Et donc, c'est un chesed d'Hachem, il a donné ces vérités qui sont finalement rationnelles. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu les découvrir nous-mêmes, mais ça aurait pris des centaines ou des milliers d'années jusqu'à ce qu'on arrive à vraiment à couvrir tous les sujets que, rationnels que la Torah aborde.
Mais il les a donnés pendant les lois de Noachique.
C'est une partie, c'est une sous-partie.
C'est une partie, mais si on développe les lois de Noachique,
c'est pas la totalité.
On arrive à trouver l'ensemble des lois rationnelles.
Mais ça va prendre du temps au Goïm, justement. Ça va leur prendre du temps à partir des sept lois. S'ils veulent aller au-delà de ces sept lois, ça va leur prendre du temps. Par exemple, dans les sept lois de Noach, il y a le fait d'établir des tribunaux. Comment les tribunaux doivent fonctionner, selon quelles règles, selon, etc. Ça, les sept lois de Noach, elles ne rentrent pas là-dedans. Mais pour le Ham Israël, Akadash Baruch Hu, il a dit, voilà, je vais vous donner, d'après ce que dit Rav Saadia Gaon, c'est son avis, il dit, je vais vous donner l'ensemble des lois rationnelles, je vous les donne. Vous verrez après qu'elles sont rationnelles. Quand vous allez les étudier, vous allez comprendre pourquoi c'est comme ça et pas autrement. Mais vous auriez pu, c'est-à-dire théoriquement, vous auriez pu les découvrir tout seul.
Et le code législatif aujourd'hui, il a été découvert.
Le
code législatif.
Ouais.
Parce qu'on apprend dans l'esprit des lois, on voit très bien que ça a pris du temps peut-être, mais ça s'est fait en parallèle.
Oui, mais ça...
Non, mais bien entendu, il n'y avait pas un besoin à l'époque.
Bah, l'homme a toujours besoin de la justice.
Non, mais il y a eu une justice.
Si tu veux, l'esclavage existe. L'esclavage au sens non juif du terme, parce qu'on sait bien que l'esclavage juif n'a rien à voir. Mais l'esclavage au sens non juif du terme, j'avais envie de te dire, il y avait encore le servage en Russie au début du XXe siècle, mais on sait qu'il y a encore des esclaves aujourd'hui dans certains pays. Donc ça veut dire que même si ça a été révélé, c'est pas pour autant que les nations l'ont embrassé. Toutes les nations ne l'ont pas embrassé. Oui, mais le Ham Israël, il a embrassé la Torah. Le Ham Israël a embrassé la Torah. Donc, ce que je voulais simplement dire ici, dans cette parenthèse, et d'ailleurs, tu m'amènes à un autre point, c'est que les Goïms, ils ont découvert, grâce aux Juifs, ils ont découvert c'est quoi le Icar de la loi. On voit les 10 commandements, comment ils sont réutilisés dans l'imagerie républicaine, etc. Mais bon, aujourd'hui, la loi dérive vers des choses qui sont anti-Torah. Des choses qui sont vraiment à l'opposé, justement, de ces règles rationnelles qui ont été établies par la Torah. Donc il y a peut-être quelque chose qu'on n'avait pas vu à l'époque, peut-être que Saadia Gaon ne pouvait pas imaginer. Parce que dans la Gemara, c'est marqué que jamais les nations du monde reviendront à dépasser certaines bornes. Comme par exemple qu'un homme écrive une ktouva à un autre homme, ou qu'on vende de la chair humaine sur le marché. La Gemara Chulin, on voit ça là-bas. Donc on voit qu'il y a peut-être un autre guédère encore dans le fait que cette Torah rationnelle a été révélée, c'est qu'il y a un moment où la raison de l'homme peut arriver à déraisonner. Et qu'on a bien nous dire, c'est ça le socle de des midot sichliot. Mais au-delà de ça, ce que je voulais dire simplement, c'est que dans le chesed que HaKadosh Baruch Hu nous fait en nous donnant la Torah, il y a cet aspect-là qui va être développé par le Maharal, qui est l'aspect de dire c'est un chesed, parce que ça nous permet de nous élever. Mais aussi, c'est un chesed, ça nous permet de nous de nous distinguer. On ne se sépare pas pour le plaisir. On se distingue des nations. J'ai lu quelque chose de très... Exactement. J'ai lu quelque chose de très joli là-dessus dans le Mayana Shel Torah. Il rapporte un enseignement de... Je ne me souviens plus s'il y a un auteur. Je ne crois pas qu'il y a d'auteur. Après, il rapporte quelque chose de similaire au nom du Sfat Emet. Mais on voit que, la semaine dernière, on a lu Parashat Shkalim. On voit qu'au début de Masechat Shkalim, il y a marqué Be'echad Be'adar, Mashmim al Shkalim ve'la Kil'aim. C'est-à-dire qu'au premier Adar, on faisait entendre mot à mot, on annonçait les Shkalim, c'est-à-dire attention, Rosh Chodesh Adar, venez apporter votre Machatzit HaShekel. Pourquoi ? Pour pouvoir financer les Korbanot de la nouvelle année qui vont être apportées à partir du premier Nissan, puisqu'on n'avait pas le droit, normalement, a priori, les Korbanot de la nouvelle année doivent être financés avec les Shkalim de la nouvelle année. Et on disait Kil Haïm. C'est quoi Kil Haïm ? C'est les mélanges interdits de plants. Et donc, c'est quoi Mashmim al Kil Haïm ? C'est-à-dire qu'on demande aux gens d'arracher les plants qui sont mélangés. Par exemple, Kil et Akerem, effectivement, s'il y a des céréales qui ont poussé à l'intérieur d'une vigne, etc. Qu'est-ce que disent les Mefarshim là-bas ? Ils disent qu'en fait, dans l'union de Kil, ça m'a plu ce sujet, c'est pas par rapport aux Goïm, hein, c'est par rapport aux Juifs, mais c'est pas grave. Il dit que Shkalim, c'est quoi l'union de Shkalim, comme tout le monde le rapporte, c'est que Shkalim ont donné un demi-shekel. C'était pour montrer aux Juifs qu'il n'y a pas de Shlemout tout seul. On est obligé toujours de s'associer avec l'autre si on veut arriver à une Shlemout. Mais il dit, en même temps qu'on dit ça, on dit aussi attention les Kil Haïm, c'est-à-dire on ne se mélange pas avec n'importe, on mélange pas n'importe quoi avec n'importe qui. Il faut faire attention qu'on ne devienne pas, entre guillemets, c'est toujours beau dans la Torah ce côté un peu dialectique, c'est-à-dire on ne devient pas bisounours, quoi. Il faut aimer tout le monde, on se complète les uns les autres, machin, etc. Oui, certes, mais... Il y a un cadre. C'est-à-dire on ne mélange pas n'importe quoi avec n'importe quoi. De la même manière qu'il y a des Kil Haïm dans la vigne, il y a aussi des gens avec qui il ne faut pas se... Il faut, entre guillemets, pas s'acoquiner. Voilà, c'est Dafka sur le fait d'arracher les plants. Tout ça pour dire qu'ici, dans l'idée du Maharal, c'est une idée à la fois de... Enfin, dans ce que rapporte le Maharal, c'est l'idée de s'élever. Donc c'est un peu le côté Shkalim, quoi. On va s'élever, on va se grandir. Mais il y a aussi l'autre idée qui est de dire que la Torah, on doit aussi à Kadosh Baruch Hu ce chesed de nous avoir fait gagner du temps, entre guillemets, sur l'humanité. De nous avoir donné tout de suite les mitzvot sikhliot, en plus de toutes les autres mitzvot qu'il nous a données, de nous permettre... d'être dans le derrière de la Kedusha dès le début de la naissance du Ham Israël. Alors un peu plus loin, il cite une autre Mishnah, un autre passage du Derech Chaim, Perek Gimel Mishnah Yud Dalet, deux lignes plus loin. Il écrit là-bas, Mipnezé Amru, c'est pour ça que dans la Gemara Shabbat d'Afud Amud Aleph, nos sages ont enseigné, Hanoten Matana la Chavero, Tsarich le Odio, celui qui fait un cadeau à son prochain doit lui faire savoir. Moi, ça paraît un peu mesquin, quoi. Tu fais un cadeau à quelqu'un, à la limite, si, on va réfléchir de manière occidentale. Si tu étais vraiment désintéressé dans ton cadeau, ne lui dis pas que tu lui as fait. C'est la beauté du geste, d'accord ? C'est la beauté de l'art. Et dis non. Dis-lui que tu lui as fait un cadeau. Pourquoi ? Veze mipne ki kol matana shenoten la acher. Tout don qui est fait à autrui. Raoui sheye ohev etmi shenoten lo a matana. Il y a comme conséquence que celui qui reçoit le cadeau doit aimer celui qui lui a donné. C'est-à-dire que le fait de faire savoir à une personne que tu lui as donné un cadeau, tu renforces les liens. Veillez shalom ben anoten ou ben amekabel. Et quel est le but de tout ça ? C'est qu'il y ait la paix. Vous pouvez dire, mais oui, c'est un amour artificiel. Il aime parce qu'il a donné un cadeau. C'est mesquin. Il faut que ce soit un amour lishma. Il dit non. Non, pas forcément. Il dit parce que le but, c'est le shalom, c'est la bonne entente entre les gens. Et évidemment que c'est le Inyan de Purim. Puisque dans Purim, on a Matanot la Evyonim. Ça, c'est évidemment pour que ceux qui sont dans le besoin puissent fêter la fête de Purim dans l'idée. C'est qu'ils puissent fêter la fête de Purim comme tout le monde. Mais aussi Mishloach Manot. C'est quoi Mishloach Manot ? Le but, c'est qu'ils rouvrent les Vavot. Le but, c'est que les gens soient proches les uns des autres, de créer du lien. Et on voit que parfois, on va aller offrir un Mishloach Manot à quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. Et peut-être cette personne se dit « Ah tiens, celui-là est sympa, c'est vrai que je ne lui ai jamais parlé, mais finalement, il n'est pas si méchant. » C'est naturel, c'est humain. Et donc... Hein ? Exactement, « Kenele Chachaver », parfois il faut acheter les amis. Bon, il faut que ce soit avec de l'argent propre, évidemment. Mais on lui amène un gâteau, on lui amène du vin, on lui amène des bonnes choses, etc. Ça crée forcément du lien. Il dit, c'est un enfant qui se... Ça se passe pas bien à l'école, de lire des bonbons, il va distribuer à ses copains, tu vois, ça va se passer... ça va se passer beaucoup mieux. Et donc, en fait, ce qu'il nous dit ici, c'est que le don, c'est le lien. Le fait qu'une personne donne à l'autre et que l'autre sache qu'elle a reçu de celui qui a donné, alors ça crée un lien entre les deux.
Il y avait une surenchère à l'époque de cadeaux entre tribus. Je ne sais pas si tu as connu cette période-là. Tu connais l'histoire, non ? Ils s'offraient des cadeaux, et ainsi de suite. Et à la fin, ils se sont fait la guerre, quoi, parce qu'ils n'arrivaient pas à aller au-delà d'eux.
C'est pour ça qu'il y a un guédér, quoi. Il y a une mesure, il y a un chiour, il ne faut pas effectivement exagérer.
Non, mais ce lien aussi, ce que je veux dire, c'est que ce lien, il peut...
Non, parce que quand tu donnes démesurément, ça veut dire qu'en fait, c'est l'objet qui devient le sujet. C'est-à-dire que finalement, le cadeau n'est qu'un objet de lien. C'est ce qui sert à créer du lien. Alors évidemment, si tu veux créer du lien avec quelqu'un, tu vas pas lui donner quelque chose qui a une valeur d'une prouta, mais qui est socialement méprisable. Tu vas donner quelque chose qui est joli, qui est même, mais t'as pas besoin non plus de dépenser des milliards, quoi. Parce que finalement, après, on rentre au contraire dans des notions de kin'a, de ta'ava, etc. Ouais, potentiellement, mais qui sont exactement à l'inverse de ce qu'on avait pensé. Alors finalement, ce qu'on comprend ici dans le Maharal, c'est que le inyan de cette bracha de Noten HaTorah, c'est finalement l'amour, instaurer l'amour. Dire, on prend conscience qu'Akadash Baruch Hu nous a donné la Torah, on le remercie pour cela, et en le remerciant, finalement, on grandit l'amour qu'on éprouve pour lui, et l'amour de la Torah. Le Rav Hartman fait remarquer, tout en bas de la page, là, il fait remarquer que dans le Mishneh Torah, dans le Rambam, Ilchot Brachot, Perek Aleph, Alacha Dalet, il dit quelque chose de totalement différent. Il dit Birkot HaTorah, Birkot Hoda'a, les Brachot de Motamo remerciement, Shehen Derer Shevach Vehodaya ou Bakasha, Kedel Iskor et Aboret Amid ou Lira Mimenu. Il dit que les Brachot de Hoda'a, de remerciement, sont des louanges pour se souvenir en permanence de Dieu et le craindre. Donc si on dit que... Alors ce qui est un peu étonnant dans le Maharal, c'est qu'on va voir que de toute manière, la bracha de Birkat HaTorah, c'est une Birkat HaMitzvah. Mais ici, le Rambam parle des Birkot HaHoda'a. Si tu me dis ici que en faisant la bracha de la Torah, je suis en train de remercier HaKadosh Baruch Hu, donc le Rambam voit dans la Hoda'a un inyan de Yir'a. Il voit dans le remerciement un sujet de crainte divine et non pas d'amour divin. Et dit « Viesh le'ayen bazé ». Il dit il faut approfondir ce sujet-là. Il n'a pas proposé de réconciliation ici entre le Rambam et le Maharal, bien qu'on va voir d'après tout à l'heure que le Maharal va suivre l'avis du Rambam sur la composition des brachot. Donc, quoi qu'il en soit, le Maharal nous dit « Lefichar tiknu shlosha brachot à la Torah » qu'on a institué trois brachot concernant la Torah. Hein, donc, ça, on l'a déjà lu. C'est quoi ces trois brachot? La première, c'est « Asher kideshanu mizitav et tzivanu »
La Asok.
Alors, chez les Ashkenazim, la Asok. Les Divrei Torah. Et chez les Sfaradim, « Asher mizitavetzivanu » Al Divrei Torah. Ok. On n'a pas le même noussar, mais on va voir que ce mot la asok va avoir une importance dans l'explication du Maharal. Deuxième bracha, Hamelamed Torah l'Amo Israël. Troisième bracha, Asher Bachar Banu Mikol Amim, et qui se conclut par Bauchat Hashem Noten Torah. Donc c'est des brachot qui se trouvent dans des bénédictions, qui se trouvent dans la Gemara Brachot, Udaf Yut Alef, Amoud Alef. Donc dans la version du Shulchan Aruch, c'est bien marqué Asher kideshan umuzdav et tzivanu al divrei Torah. Et donc le Mishnah Berurah fait remarquer uminhag midotenu lomar la'asok bidivrei Torah. Que le minhag Ashkenaz est dire la'asok bidivrei Torah. Dans le Ber Agola, il rapporte également vechatav arosh ve'atur shi'ashomrim la'asok bidivrei Torah vechen unusach Ashkenaz u Polania. Donc bon, voilà, c'est une différence de noussar entre les différentes contrées. Donc par rapport à la source de la machloquette entre Ashkenaz et Sfarad, si on regarde dans la Gemara, qu'est-ce qui a marqué? Donc c'est dans Brachot d'Afiud Alef Amud Bet, Maï Mevarech, Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Asher Kideshanu Bimitzotav et Tzivanu, La Asok Bedivre Torah. Donc la Girsa qui est dans la Gemara correspond à ce qu'a conclu le tour et le Roche, donc le Minag Ashkenaz, et on a un Gilion Hachas de Rabbi Akiva Iger dans la marge, qui nous dit la Asok Vechule, Berif, Hagirsa, Al Divre Torah. Donc en fait, on voit là l'origine de notre discussion, c'est que dans le Rif, qui est le prédécesseur ou le précurseur entre guillemets du Rambam, puisque le Rif a été le maître du maître, probablement du père du Rambam, on dit que le père du Rambam a étudié avec le Rimigash, ou peut-être son propre père a étudié avec le Rimigash, et le Rimigash était un élève du Rif. Donc on sait que le Rambam est Nimshach achar Rif. Très souvent, la plupart du temps, il est possède comme le Rif. Et donc, dans la version du Rif, je rappelle que le Rif, c'est un condensé, finalement, de la Gemara, où on fait, on va dire, on se débarrasse, entre guillemets, des longueurs de discussion, etc., pour se concentrer sur les sujets de Halakha. Et donc, là-bas, il a la Girsa al-Divrei Torah. Donc, c'est pas sa Girsa à lui, c'est que probablement que il avait une Girsa de la Gemara où il avait déjà marqué Al-Divrei Torah, et quand il a condensé, c'est resté comme ça. Et donc finalement, les uns suivent la Girsa qu'on a dans le chasse, et les autres suivent la Girsa qu'on a dans le Rif. Mais on va voir encore une fois que le terme de la Asok va avoir une importance dans l'explication du Maharal. Donc je reprends dans le Maharal. Donc il nous avait dit « Ve'akol shetie limud ha-Torah me'ava » Tout ça, c'est pour que l'étude de la Torah soit par amour. Ou bigmara perekama di brachot. Donc, dans la Gemara, au premier perek de brachot, d'Afud Alef Amud Bet, qu'on vient de citer, Maïm Evarer, quelle est la bracha qu'on doit faire? Amar Rav Yehuda Bar Ashi. Rav Yehuda Bar Ashi enseigné, Baruch Asher Kideshanu Vetsivanu Laasok Bedivre Torah. Ve Rabbi Yochanan Amar, Ha'arevna Hashem Elohenu Vechule. Donc, Rav Yehuda Bar Ashi, il a dit « Béni soit celui qui nous a sanctifiés et ordonné Kideshanu Vetsivanu, Laasok Bedivre Torah, nous occuper, de nous affairer dans les paroles de la Torah. » Et Rabbi Yochanan lui a enseigné « Ha'arevna Hashem Elohenu Vechule » que tu puisses rendre agréable tes paroles, etc. « Baruch Ata Hashem, Alamet Torah Labo Israël » Béni sois-tu qui enseigne la Torah au peuple d'Israël. Rav Amnuna Amar, et Rav Amnuna quant à lui a dit, Baruch ata Hashem, Asher bachar banu mikol ha'amim, Baruch ata Hashem, noten la Torah. Donc effectivement, on aurait pu penser que ces trois brachot sont des brachot exclusives et qu'on doit dire l'une d'entre elles, il faut choisir entre la vie de l'un et la vie de l'autre, mais finalement, on lit les trois brachot. Donc nous disons ces trois brachot tous les matins. Alors maintenant, le Maharal nous dit Ve'elu shalosh brachot. Mais ces trois brachot dont on a parlé, Rabbi Yehuda Savar, qui est levarech al birkat ha Torah, kemosh ar brachot ha mitzvot, shimaverchim al mitzvot kulam. Rav Yehuda pense qu'on doit faire une bracha qui est semblable à toutes les brachot qu'on fait avant une mitzvah. C'est pour ça qu'il a dit Asher kideshanu b'mitzvotav et tzivanu la'asok bedivre Torah. Ça ressemble à Asher kideshanu b'mitzvanu. Les Anir Tefilin, les Tatev Betzitzit, les Lishmo Akol Shofar. C'est Birkat HaMitzvah classique. D'accord ? Et donc, c'est là qu'il faut faire remarquer que quand on dit que ces trois brachot, on prend déjà position. Pourquoi ? Le Rav Hartman nous fait la grâce de nous résumer les Shitot Rishonim dans la note 94. Donc, il nous rappelle qu'il y a l'avis du Rambam, selon lequel on a bien trois brachot. D'accord ? Alors maintenant, non, qu'on a trois brachot distinctes. Et pourquoi la deuxième bracha ne commence pas par Baruch ? C'est Ve'arevna. Il dit parce que c'est ce qu'on appelle bracha smucha lachaverta. On sait que quand on a deux brachot longues qui se suivent l'une l'autre, ce qu'on appelle une bracha longue, c'est une bracha qui n'est pas juste Baruch Ata Hashem avec la conclusion. Donc il y a du texte et après il y a une khatima. Donc normalement quand une bracha est longue, il y a d'abord une introduction, d'accord? Par exemple, Baruchat Hashem, Yotzer Or Uvechosher, Rosh Hashem Uvetakol, ta 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 ta, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin, Baruchat Hashem, Yotzer Ameorot, d'accord? Donc il y a une Pticha, il y a une Khatima, il y a une ouverture, il y a une conclusion de la bracha. Maintenant, quand on a deux brachot longues qui se suivent, c'est ce qu'on appelle bracha asmucha la chaverta, une bracha qui est collée à la précédente, donc la seconde ne recommence pas par Baruch. Elle ne fait que être, par exemple, le soir, à Avatolam, donc on ne va pas dire, okay. On recommence pas, ou même le matin, quoi, Avatolam ou Avaraba, enfin, oui. Selon les versions, mais en tout cas, la deuxième bracha, on ne va pas la commencer par Baruch, parce que c'est bracha asmucha la chaverta. Donc en fait, quelle est la machloket rishonim? La machloket rishonim, elle est de savoir que est-ce que la deuxième bracha, entre guillemets, est-ce que le deuxième texte qui dit Ve'arev na Hashem Elo, etc., est-ce que c'est en fait la conclusion de la précédente bracha? Et qu'en fait, la bracha qu'a nous a enseigné Rav Yehuda, c'était Barashi, c'était en fait la Pticha. Qu'ensuite, Ve'arev na, c'est la suite. Et qu'il y a une Khatima. Et après, il y a une deuxième bracha. Ou alors, est-ce qu'on va dire que la deuxième bracha, c'est une bracha asmucha la chaverta? C'est-à-dire, j'avais une bracha ktsara, une bracha en une seule ligne. Et ensuite, je colle une deuxième bracha, qui, elle, est une bracha longue. Alors, cette bracha longue, on va faire fi de la pticha, et on va uniquement conclure par Baruch. Okay? Donc, selon la shita du Rambam, il s'agit bien de trois brachot différentes. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a une discussion de savoir si on doit dire Aharevna ou Ve'aharevna. Parce que si on dit Aharevna sans le Vav, Mistamak, c'est une autre bracha. Si on dit Ve'aharevna, ça veut dire c'est la suite de ce qu'on vient de dire, d'accord ? Bon, nous, on dit les deux. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici ? Donc, il dit que la shita du Rambam, c'est que c'est bien trois brachot différentes. Il dit Ve'lachen tsarich lomar Aharevna blivav. C'est pourquoi il faut dire Aharevna sans vav. Ki hi trilat abracha, bracha chadasha. Parce que si tu me dis que c'est trois brachot, ça veut dire qu'on finit avec une, on finit la première bracha et on commence une nouvelle bracha. Il n'y a aucune raison de coller un vav entre les deux brachot. Alors, c'est chez les Sfaradis, bien qu'on soit possède comme le Rambam, dans tous les Sidurim, c'est marqué Ve'arevna. On retient le noussar de Ve'arevna. Alors, en vérité, ça c'est l'avis de Rabbeinu Tam. Donc, Rabbeinu Tam, lui, pense, donc c'est dans brachot, même vav amoud alef, dans Tosfot, Dibura Matril Kol, il dit qu'en fait, il n'y a que deux brachot, et que Aharevna, c'est la khatima de la première bracha, et c'est pour ça qu'elle ne commence pas par Baruch. Donc le Maharal, lorsqu'il nous dit qu'il y a trois brachot, ça veut dire qu'en fait, il est de la vie du Rambam, il se range à la vie du Rambam.
Ve'arevna.
Il rajoute hein? Ve'arev.
On dit tous Ve'arevna, ouais. Hein?
Il dit Ve'arev aussi?
Non, ici, dans la manière dont il a cité la Gemara, il a juste dit Aharevna. Ouais, d'accord. Voilà, il est cohérent. Non, mais ce que je veux dire, c'est que nous, on est posek généralement.
Que c'est...
Nous,
on peut dire Ve'arev, dans la mesure où on peut imaginer que ça fait deux bras propres. Et là,
il faut revoir dans le tour. Est-ce que
il t'enlève le vav.
Je me souviens plus si c'est une pshara. Je me souviens plus dans le Beth Yosef si c'est une pshara ou si vraiment on est posek. De manière unique comme le Rambam, il y a tout une... Alors ici, il y a un Beth Yosef qui dit « Uma shekatav yesh lomar ve'arevna bevav, ki bracha achat hi, im la'asok bedivre Torah. » Donc c'est le tour qui dit ça. Le tour dit pourquoi il faut commencer la bracha de Arev par un vav, parce que c'est une bracha unique avec celle qui précède. « Shilo haita bracha bifne atzma haita potachat bebaruch. » Il dit « C'est une bracha indépendante, elle commencera avec Baruch. » Et qu'est-ce qu'il dit le Beth Yosef ? Je n'avais pas prévu qu'on étudie ça ce soir, mais c'est intéressant quand même. Mm-hmm. Le Beth Yosef, il dit « Ken kadvoa tosfot beperek shlosha she'achlou, ou beperek arve psachim, ou beperek amadik tubot, beshem Rabbeinu Tam. » Donc à trois reprises dans le chasse, les balais à tosfot rapportent ça au nom de Rabbeinu Tam. « Vechen katavaroj besof perek kama de brachot, veze leshono, ou l'fi ma shiragil Rabbeinu Tam lefaresh derkol hecha shabrachot ktsarot afilu bracha smucha lachaverta » Potachat bebaruch, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, selon Rabbeinu Tam, c'est uniquement si c'est deux brachot longues qui se suivent que la deuxième ne commence pas par baruch. Mais si on a une première bracha qui est une bracha courte, comme la première bracha dont on parle ici, à chaque Nevitzvah Noël Vretora, d'après Rabbeinu Tam, même la smucha la chaverta, la deuxième, peut commencer par Baruch. Et donc, même sans même parler du Vav, Rabbi Noutam dit le fait que la deuxième bracha, elle commence par Arevna, et non pas par Baruch Ata Hashem, etc., ça veut dire que on n'est pas dans une smucha. C'est, dans ce cas-là, ça devrait commencer par Baruch. Si ça commence pas par Baruch, c'est que c'est la même bracha.
Ah, parce que c'est pas une longue.
Parce que c'est pas une longue. C'est uniquement dans le cas de deux brachot arukot, où la deuxième est smucha la chaverta, que tu sautes le Baruch de la deuxième. Mais si c'est une courte puis une longue, la longue, même si elle est smucha, elle commence quand même par Baruch. Donc là, si ça commence pas par Baruch, c'est qu'il y a une seule bracha. D'accord ? C'est clair.
On ne dit pas Amen entre les deux.
Hein ?
On ne répond pas Amen entre les deux.
Oui, ça c'est Michoum, parce que justement, parce que c'est un sidro ashkenaz. Donc d'après le Rosh, c'est clair que c'est une seule bracha, d'après Rabbi Noutam, donc c'est interdit de répondre Amen entre les deux. Ok ? Alors, je continue dans le Beit Yosef. Je continue dans le Beit Yosef. V'chen katav rav Rabbeinu Yona va Mordechai. Aval, mais donc c'est également l'avis du Rabbeinu Yona et du Mordechai. Donc Rabbeinu Yona c'est un espagnol, Mordechai c'est un élève du Maram de Rothenburg. Aval à Rambam, mais nous dit le Beit Yosef, le Rambam dans le 7e pérek de l'Ilchot Tfila, katav shechalosh brachot hen. Il a dit que c'était trois brachot. V'lachen katuv a Revna belo vav. C'est pour ça qu'il a écrit a Revna sans vav. Vekatav Arashba, Sheken Daat Baal Amaor. D'après le Rashba, c'est également l'avis du Baal Amaor. Vegam Tosfot Katvu Beperek Arve Psachim, Aldivre Rabbeinu Tam, Umiou Birushalmi Parir, Veare Avdala. Donc apparemment, il y a une Kushia qui est posée par les Tosfot sur ce psak-là de Rabbeinu Tam en disant que dans l'Irushalmi, Brachot, pardon, on pose la question à partir de la Avdala. Et que, comme quoi, c'est pas en fait clair exactement quel est le psak. Même d'après les Tosfot. Pirush, Makshe echi amar de bracha smucha la chaverta et napotachat be baruch, veare avdala, shesh bakama brachot, afilo achat pour abba baruch. On dit, on voit pourtant que dans la avdala, il y a toute une série de brachot qu'on dit les unes après les autres, elles sont courtes, et on commence par baruch. Donc, comment tu peux dire? Umtaret, shani brachot avdala, shirabi amefazeran, kelomar shloyamra malkos, et là, kol achat levada. Mais il dit là-bas, c'est pas la même chose. Chaque bracha, elle a son sujet. Il y a une bracha pour les bessamim, une bracha pour machin, etc. Shmamina, de ilav de rabbi, mefazeran, loaya poteach ba bebaruch, mishum de bracha semucha la chaverta makri, vafalgav, de havia im matbea katsa. Alors, il dit, vechen ir emi divre rashi, beperekama diktubot, gabe birkat chatanim. Il dit, on voit la même chose dans Rashi à propos des sheva brachot. Ou aussi, là aussi, c'est Smucha la Chaverta, mais comme elles commencent quand même par Baruch. Et Rabbi David Abu Daram, il écrit quoi? Sheken Nikar, Kevan Shalashon Mishtane, ou Medaber Leaba, Vechen Noagim. Le Omra Belovav, Atken Leshono. Donc, le Rabbi David Abu Daram, qui est un des grands poskim, un des grands rishonim espagnols, qui, notamment sur les brachot et sur la tfila, donc lui, il dit qu'il faut dire sans le Vav. Umikol makom, daat Rashi bivrachot ve'arev kedaat Rabbi Noutam, shena bracha bifnei atzma, shekatav Rabbi Yochanan mesayem bahachi. On va voir dans la Gemara que le lashon c'est Rabbi Yochanan finit avec ve'arevna. Donc il finit quoi? Si tu dis tu finis, c'est que c'est la suite de la bracha. C'est pas, si on doit dire Rabbi Yochanan mosif, non, il dit Rabbi Yochanan mesayem. Deba epticha bebaruch vechatima bebaruch. Ulinyan maase nir elomar. Voilà pour le maase. Quelle est la conclusion du Beit Yosef? Nir elomar ve'arev imvav. Sheare le divrei haomrim shei bracha achat im chiser vav ave mafsik beemtza bracha. Il dit pour ceux qui pensent que c'est une seule bracha, si tu dis sans le vav, tu introduis une rupture à l'intérieur de la bracha. Donc on n'est pas content. Ul divrei haomrim shei bracha bifnei atzma. Donc c'est bien, comme je pensais, c'est bien une pshara. Il dit pour ceux qui pensent que c'est une seule bracha, que la deuxième bracha c'est une bracha en soi. Même si on a dit le vav, en bechar kloum, ça fait quoi? Ça mange pas de pain. D'accord? Pas grave. Donc finalement, le fait de dire ve'arevna permet de réconcilier tous les avis. Si on n'avait pas mis de vav, alors on aurait introduit un problème dans ceux qui pensent que c'est une seule bracha. Et si on met le vav, ça pose pas de problème pour ceux qui pensent que c'est deux brachot. Ok?
Et s'il le considère comme une bracha dans le...
Non, le Maharal, il a trois. Il est trois, lui.
Non, mais deux.
Non, donc si le Maharal il pense que c'est si le Maharal il pense que c'est trois brachot,
oui,
comme le Rambam.
Mais ici dans le
oui, parce qu'il a oui, il a dit
il associe une bracha.
C'est ce qu'on vient de voir. C'est ce qu'on vient de voir. On a dit que étant donné que le vav ne porte pas à conséquence pour que ceux qui pensent que c'est deux brachot différentes, c'est-à-dire qu'on a trois brachot en tout, d'accord, mais que si on met pas de vav, ça va poser problème à ceux qui pensent que c'est une seule bracha. Alors on met le vav, comme ça tout le monde a gagné. Donc c'est bien une pshara, donc la conclusion du Bet Yosef dit qu'en fait notre minhag c'est une pshara qui permet de ménager aussi bien l'avis du Rambam que l'avis de Rabbeinu Tam. Maintenant quant à savoir si on a le droit de répondre amen entre les deux ou pas, et il faut que je regarde, je me souviens plus, sur les Ashkenazim probablement que non, c'est interdit de répondre amen, sinon c'est un hefsek à l'intérieur de la bracha. Pour les Sfaradim, si on est posé comme le Rambam, probablement qu'on peut, probablement que effectivement on peut répondre amen sans avoir aucun souci. Donc voilà, donc ça c'était le petit rappel à l'Achik qui nous a quand même pris un petit peu de temps. Et donc je reprends à nouveau dans le Maharal, donc il dit ces trois brachot, Rabbi Yehuda Savar qui yesh levarer al birkat haTorah kemosh ar birkat haMitzvot. Donc après la deuxième question, c'était de savoir quelle est la nature de cette bracha. Donc, d'après ce que nous dit Ravi Houda, nous dit le Maharal, c'est une bracha qu'on fait sur la mitzvah de l'Imouda Torah, comme sur toute autre mitzvah. Alors, dans le Bet Yosef, toujours, dans le Siman Memzaïn qu'on vient d'étudier, en partie, il rapporte une chouva du Rashba. Qu'est-ce que dit le Rashba? Enfin, quelle est la question qui lui a été posée, plutôt, pour commencer? She'ela. Keshanu mevachim ala Torah bechol boker. Il dit, quand on fait la bracha Birkat HaTorah le matin, pourquoi on fait pas la bracha de conclusion? Puisqu'on sait que quand on monte à la Torah, on dit Asher Bachar Bano, et après on dit Asher Natan Lanu HaTorah Torah Temet. Donc la question qui a été posée au Rashba, il dit, le matin c'est bien, on fait la bracha du début, mais en fait elle est où la bracha de la fin? Il manque un morceau.
Mais puisqu'on étudie toute la journée, pourquoi tu veux faire la bracha comme ça?
Alors lui, il voulait faire comme ça. Alors qu'est-ce que lui a répondu le Rashba? Le Rashba lui a répondu « Kriyat haTorah mitzvah ve'en mevachim al mitzvah l'achareem » Il dit l'étude de la Torah, la lecture de la Torah est une mitzvah, et on ne fait pas de mitzvah après, on ne fait pas de bracha après la mitzvah. C'est-à-dire que ça vaut pour la lecture de la Torah au sens propre du terme, mais ça vaut pas pour l'étude de la Torah, parce qu'elle n'a pas de limite, entre guillemets.
Megillah.
Hein?
Megillah. Lecture de la Megillah.
C'est un texte déterminé. Une fois que t'as fini. Il n'y a, plus à rajouter.
Non, on fait bien une bracha à la fin.
Oui. Mais quand on monte à la Torah aussi, on fait une bracha à la fin. C'est pour ça qu'il est étonnant qu'il dise Kriyat haTorah. D'accord? Mais il a utilisé le terme de Kriyat haTorah, bien que la question qui lui a été posée, c'était sur. La bracha qu'on fait le matin, donc il n'y avait pas de confusion possible. Donc lorsque c'est un texte qui est circonscrit, c'est-à-dire qu'on a fini la mitzvah, une fois qu'on a lu les 10 psukim, ou les je ne sais pas combien de psukim qu'on lit le matin, ou chacun il monte, il lit 3 psukim, une fois qu'il a fini sa aliyah. Bon, bien que vous savez comment ça se passait à l'époque de la Gemara, que le premier faisait la bracha Rishona, et le dernier faisait la bracha Harona, celui qui était au milieu, qui montait, il ne faisait pas de bracha. Donc dans la Megillah, effectivement, on fait une bracha harona, parce que quand on a fini la Megillah, on a fini la Megillah. C'est vrai que c'est choquant, moi ça me choque toujours quand je vois que par rapport à ce din de la Gemara, quand tu vois que le Kohen, quand il n'y a pas de Lévi, il recommence une deuxième fois alors que c'est la même personne, etc., ça interroge quoi. Bon, les Chachamim, c'est l'oplouk Chachamim, les Chachamim, quand ils ont institué que chacun devait faire la bracha, ils n'ont pas voulu faire de distinguo entre les différents cas, mais ça interroge quand même.
Et à l'époque de la Gemara, tu dis donc celui qui était au milieu ne le refaisait pas la bracha.
Ouais.
Donc c'est quoi, il y a 2000 ans quoi.
Ouais, quelque chose comme ça, ouais, un peu moins quoi.
Tout le monde pouvait monter alors.
1500 ans, ouais.
Non, tout le monde pouvait monter.
Hein?
Tout le monde pouvait monter.
Enfin, tout le monde, il y avait en fonction du nombre d'appelés, le nombre d'appelés était toujours le même quoi, comme aujourd'hui.
Appelé, tu pouvais faire monter 10 personnes en même temps.
Non, pourquoi?
Non.
Il y avait des appelés. Il y a un mode machin, mais il y a un mode machin, il est yotze. Il y a un mode machin, il est yotze de la bracha que le premier a fait. Après, il va attendre jusqu'à la fin, il va se quitter de la bracha du dernier.
Il se marque où ça?
Comme à Simchat Torah, à Shul du Rami, on montait plusieurs en même temps, quoi. On faisait la bracha.
À Simchat Torah.
Oui.
C'est pas, c'est dans toutes les synagogues.
Mais non, mais sans qu'on soit.
C'est particulier. C'est un lien de c'est Simchat Torah. Il y a beaucoup de lois bizarres à Simchat Torah. Ah. Mais c'est pas quelque chose qu'on fait normalement. Alors, il continue. Ou machim vachim la asok bedivrei Torah. Il dit pourquoi on fait la bracha la asok bedivrei Torah, s'occuper le esek. Vélo l'ilmod Torah. Dis-moi l'ilmod Torah. On est en train de faire une bracha pour pouvoir étudier la Torah. Pourquoi tu me dis la asok bedivrei Torah? La asok, c'est-à-dire s'occuper, s'affairer, s'entretenir, etc. Pourquoi pas l'ilmod, étudier? Pourquoi aller chercher compliqué quand on peut faire simple? Nir e kim varechim kar. Il dit en fait le problème, c'est que si on avait fait la bracha l'ilmod Torah, haya mashma à la Torah, shi à Torah ka alacha. On aurait pensé que cela ne recouvre que la Torah qui est conforme à la halacha. Kize ikar à Torah. Donc on revient sur cette idée du Maharal qu'on avait étudié il y a quelques mois, sur le fait que le ikar de l'étude de la Torah, c'est la halacha. C'est-à-dire qu'on doit étudier en vision, en perspective de la halacha. Et il le dit également dans le Derech Chaim, au Perek Gimel Mishnah Yutret, c'est rapporté en note 98. Ikar à Torah ou halacha. L'essentiel de la Torah, c'est la halacha. V'chacher à halacha y halacha psuka. Lorsque la halacha est une halacha qui est tranchée, Ena nota minekudat haemet, elle ne s'écarte pas du point, mot à mot, du foyer de la vérité. Lo limin ve lo lismol, ni à droite ni à gauche. Velachen ikra halacha, c'est pour ça qu'elle s'appelle halacha, ki haoler hu holer bederech yashar. La plupart des gens vous expliquent que halacha c'est parce qu'elle évolue. C'est vrai aussi, c'est marqué dans le Arouch. On sait faire un Arouch de Rabbi Nathan de Rome, il dit voilà, c'est l'halacha parce que les Shelot Utshuvot, les Sfarim sont publiés, la halakha, elle avance. Mais il ne faut pas croire que certaines personnes prennent ce shoresh pour un prétexte qu'il faut évoluer, il faut vivre avec son temps. Halakha, ça veut dire là alors. Donc le Mahalach, le Mahalach du Maharal est très clair. Il dit c'est quoi halakha? C'est celui qui est olech yasha, celui qui marche droit. On ne dévie ni à droite, ni à gauche, comme on a vu au début du Netivot Olam. Et non, otel imin vilismol. Donc c'est ça le inyan du vrai limoud, le limoud authentique. Veimlo haya mechaven halacha. Maintenant, s'il n'a pas, il n'est pas arrivé à la halacha, sa conclusion n'a pas été la halacha telle qu'elle devrait être. Loya zenikra Torah. On n'aurait pas pu appeler ça Torah à la base. On n'aurait pas pu dire qu'il est l'omen Torah. C'est très fort, hein, quand même. Il va loin, le Maharal. Veze eno klal. Il dit en fait, c'est pas du tout comme ça. Ki av sheno mechaven halacha. Hugamken mitzvah. Il dit même si la conclusion de son étude l'a amené à une. Même si son étude l'a amené à une conclusion qui est erronée. Ah. Alors ce sera quand même une mitzvah. Sheno mechaven halacha, hugamken mitzvah. Ce sera quand même une mitzvah. Ulfichach mevachim la sog bedivrei Torah. Donc en fait, ce que dit ici le Maharal, c'est assez explosif, entre guillemets. Il nous dit la seule chose qui s'appelle vraiment. Limoud, c'est une étude qui va t'amener à la conclusion amitite, au émet. Non, mais au émet alachique, pas stam alalacha, d'accord ? Qui va t'amener au émet. Si tu as eu un cheminement de limoud qui t'amène au émet, et au émet dans la halacha, alors ça s'appelle le limoud. Il dit, si c'est pas ça, t'as pas fait exprès, mais ta conclusion est à côté de la plaque. Alors, c'est pas du limoud, mais par contre, c'est du essek à Torah, tu t'es occupé de Torah, c'est une mitzvah. Et c'est comme si on avait eu peur de faire une bracha levatala. C'est-à-dire, on va dire l'ilmod Torah, mais en fait, notre limoud, il n'est pas mechouvan la emet, parce que malheureusement, notre intellect, il n'est pas bien, ou parce qu'il nous manque des connaissances, ou voilà, parce qu'on est humain, tout simplement. Elle dit, il a fait une bracha levatala, il a fait une bracha sur limoud, alors que son truc, c'est pas du limoud, c'est du essek. Donc, c'est comme si les Chachamim avaient voulu ratisser large. Ils ont dit, tu sais quoi, on va faire une bracha. La sog bedivrei Torah. Comme ça, dans cette bracha-là, on amène tout le monde. Ceux qui comprennent bien, ceux qui comprennent mal, ceux qui arrivent à une conclusion juste, ceux qui arrivent à une conclusion erronée. Ils sont tous dans le même, panier. On avait vu d'ailleurs. On l'avait cité déjà, on le recitera parce que c'est un passage du Perek Tedvav. Bon, ce sera vers la fin de notre étude. Hein. Juste en haut de la page Shinyud, là, dans les notes, le Rav Hartman rappelle ce passage incroyable du Maharal qui dit qui yoter ra'ui ve yoter nachon shi yeposek mitokh ha-Talmud ve'af ki yesh lachosh shelo yelech bederech ha-emet ולא יפסוק הדין לאמיתו שתהיה ההוראה לפי האמת. מכל מקום, אין לחכם רק מה שהשכל שלו נותן ומבין מתוך התלמוד. וכאשר תבונתו וחוכמתו תטעה אותו, עם כל זה, הוא אהוב אל השם יתברך, כאשר הוא מורה כפי מה שמתחייב מן שכלו. ואין לדיין רק מה שעיניו רואות, והוא יותר טוב ממי שפוסק מתוך חיבור אחד, ולא ידעת טעם הדבר כלל שהולך כמו עיוור בדרך. מהר"ל dit quelque chose qui est absolument inaudible, on va dire, dans notre génération. Il te dit, il vaut mieux sortir ton psaque de la Gemara, même si tu vas te tromper, tu vas arriver à une conclusion totalement erronée. Dieu t'aime. D'accord ? Dieu, il t'aime parce que de toute façon, le Dayan, il Elo Ela Machen Avro Hot. Donc, il ne voit que ce que c'est. Enfin, il ne juge que parce que ses yeux voient. Et il a déduit ce qui était la déduction rationnelle d'après son sechel. Et donc, d'après le Maharal, il vaut mieux être possède comme ça que d'ouvrir un Kitsur Shulchan Aruch et de dire qu'est-ce qui est marqué et d'avoir la solution, en fait. Il vaut mieux poser le problème et arriver à une mauvaise solution parce que tu n'as pas les annales que d'aller directement regarder dans les annales c'est quoi la solution et dire ok, la halakha c'est comme ci, comme ça. Bon, évidemment, ce n'est pas le derech qui a été retenu par les générations. Mais ça prouve en tout cas qu'il y a un point qui a été retenu, on va dire, dans ce mahalakh-là, c'est de ne pas être possèk la halakha à partir des sfarim de psa, comme Shulchan Aruch, comme tous les livres qu'on peut avoir de la même nature, de manière stupide. C'est-à-dire sans essayer de comprendre d'où ça vient, est-ce que vraiment ça s'applique à mon cas, etc. quoi. Donc ne pas sortir les choses directement du livre sans avoir compris pourquoi le Shulchan Aruch a été possèk comme ça. Donc, ce qui veut dire, dans l'idéal, de connaître les Gemarot et de connaître le Mahalach de la Halakha, c'est-à-dire le Bet Yosef, dire savoir quels étaient les Rishonim qui ont parlé, comment ils ont compris la Gemara, pourquoi il y avait une Machloket, pourquoi on arrivait à cette conclusion, pourquoi le Shulchan Aruch a synthétisé de cette manière-là, etc. etc.
Là, les Gemarot aujourd'hui, ils sont avec les Halakhot, les nouvelles Gemarot. On a la Halakha
qui va. Dans les Gemarot, depuis quelques bons siècles, on a le En Mishpat, d'accord, En Mishpat Ner Mitzvah, qui renvoie effectivement aux références dans la halakha. C'est-à-dire qu'il te dit, tel memra de la Gemara, elle est rapportée dans le Tour Shulchan Aruch à tel siman, ou dans le Rambam à tel siman. Mais ça ne te dit pas, en général, c'est une bonne indication que c'est la halakha. D'ailleurs, de manière, on va dire, très approximative, quand on étudie une Gemara, on dit « Ah, là, il y a un petit bête, ça veut dire que c'est ça, la halakha, entre les deux déotes, etc. » Donc, dans 95% des cas, c'est vrai. Mais pas forcément, quoi. Mais pas forcément.
Et ce qui veut dire qu'étudier le Shulchan Aruch, c'est pas une étude en soi, quoi. On doit pas passer par ça.
Si tu aujourd'hui, ou personne ne lit aujourd'hui, on avait parlé de ça, que le Shulchan Aruch, c'était juste un résumé du Bet Yosef et que les gens relisaient ça tous les mois. Mais aujourd'hui, on lit pas le Shulchan Aruch comme ça. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui étudie le Shulchan Aruch, normalement, il étudie, on va dire, une étude sérieuse du Shulchan Aruch. C'est pas du Shulchan Aruch. C'est une étude Tour Bet Yosef Shulchan Aruch. Donc d'abord, on regarde ce que dit le Tour, qui est un codificateur. On va voir ce que dit le Bet Yosef, c'est-à-dire tous les avis qu'il va rapporter, pourquoi le Tour a dit ci, pourquoi il a dit ça, je suis d'accord, je suis pas d'accord, voilà de quel Gemara ça sort, voilà quels sont les avis en présence, etc. Sachant que beaucoup des Rishonim qu'on a aujourd'hui, ils ont été publiés dans les 50 dernières années et que le Bet Yosef n'a jamais vu de sa vie. D'accord ? Donc, toutes les Shelot, toutes les Shuvot qu'on a, du Ritba, du Rashba, etc., ils en avaient une partie. Mais les Chidushé à Ritba, par exemple, pour prendre un exemple classique, jusqu'à il y a, pour certains, 30, 40 ans, personne ne les avait. Ils étaient en manuscrit. Donc, il y a des Rabbanim qui les ont vus, puisque ces manuscrits, ils n'étaient pas enfermés dans un coffre. Mais je veux dire, ce n'était pas diffusé. Bon, mais tout ça pour dire que le Bet Yosef a fait son travail essentiellement avec le Rif, le Rosh et le Rambam, de voir comment est la halakha. Très souvent, évidemment, quasi presque tout le temps, il cite plein d'autres Rishonim, que ce soit le Mordechai, que ce soit le Itour, bon voilà, tous ces ouvrages médiévaux. Et donc, si on étudie le Shulchan Aruch comme ça, c'est-à-dire qu'on a étudié le Tour et le Bet Yosef, on sait déjà d'où vient la halakha dans la Gemara, quel est le contexte, quel est le sens de la généalogie de la halakha. Et quand on lit le Shulchan Aruch, on comprend. On dit, ah, le Shulchan Aruch a dit ça parce que... Et quand il résume la halakha comme ça, il est posek. Bon, c'est un jeu qu'on fait toujours quand on étudie. Dire, ah, comment le Shulchan Aruch est posek ? Maintenant que tu as étudié le Tour et le Bet Yosef, et éventuellement d'autres Mefarshim, etc., est-ce que tu as bien compris comme qui il est posek ? Parfois c'est très simple, parfois c'est plus compliqué de savoir pourquoi il a été posek ou comme qui il a été posek. Et donc quand tu arrives à ce niveau de compréhension-là, après il y a tous les Mefarshim sur le Shulchan Aruch. Le Shach, le Taz, le Magen Avraham, le Magen David, en fonction des Chalakim, Chakam Abrokek, Bet Shmuel, machin, etc. Une fois que quand tu vas retomber dans ces Kelim, dans ces commentaires du Shulchan Aruch, eux-mêmes très souvent vont faire référence à la source du psaque. Il va dire, ah non, mais Shulchan Aruch, il était possédé comme un tel, mais nous, on n'est pas du tout comme ça, nous, on va comme Rabbeinu Tam, donc la halakha, c'est comme ça. Donc forcément, une étude intelligente du Shulchan Aruch, qui prend du temps finalement, c'est pas juste de... Même quand on étudie un Mishnah Berurah, etc., on n'a pas toujours en... À moins d'étudier le Biur Halakha à la Seder, on n'a pas toujours en tête tous ces éléments-là, quoi. Et si on étudie de manière intelligente, en prenant du temps, normalement, on a une vision de l'Halakha qui est correcte. On risque pas de tomber... c'est un des grands dadas de Rav Yitzhak Yosef, qui dit toujours que voilà, il faut étudier le Tour, etc., et que une fois il avait raconté, il dit, j'ai vu un livre d'un très grand Talmid Chacham, je vais pas dire son nom pour pas lui faire honte, mais à tel endroit il était posek comme ça, il dit, c'est clair que ce qu'il a écrit, il l'a écrit parce qu'il a pas vu le Tour Albet Yosef. Il a pris le Mishnah Berurah, en gros, il a recopié, mais il a interprété le Shulchan Aruch d'après ce qu'a dit Mishnah Berurah, mais s'il avait regardé la source, dans le contexte de ce qu'il a voulu dire, c'est pas du tout ça, c'est à côté. Donc, pour ça qu'on dit que les poskim, il y a toujours une tension entre les ouvrages de discursifs, de dialectique talmudique, etc., et les ouvrages de psak. Et certains disaient aussi, quand le Knesset HaGedola est sorti, le Knesset HaGedola, c'est un livre de psak turc, très grand livre de psak turc, donc qui sont un commentaire sur le tour. Il dit voilà, un Sfarad, il ne peut pas être possèque s'il n'a pas étudié le tour avec le Knesset HaGedola. Parce que le Knesset HaGedola, il va ramener encore, en plus de ce qu'on a déjà vu dans le Bet Yosef, il va ramener encore des tonnes et des tonnes de d'avis pour avoir une vision entre guillemets encyclopédique de. Bon. Je referme la parenthèse. Donc tout ça pour dire que le Maharal, ici, il a un derrière qui est absolument incroyable. Veyesh Lomar, Gamken, qu'est-ce qu'on peut encore dire ? Kilimoud. Shayar Gam et Machashava. Il dit en plus le Limoud s'applique également à la pensée, par opposition à la Asok Bedivre Torah. Parce qu'en fait, la Asok Bedivre Torah, en vérité, c'est quelque chose qui apparaît être quelque chose de pratique. Quand on dit l'Ilmod Torah, d'après le Maharal, c'est quelqu'un qui a étudié la Torah pour arriver à la conclusion de la Halakha. Mais celui qui ne va pas jusqu'à la Halakha, donc ça ne s'appelle pas du Limoud. Ok ? Maintenant, on a un deuxième problème, c'est que le limoud, ça peut se faire en pensée. On peut réfléchir à des halakhot. Ou brachazot, chez mevaechim à la Torah, ikemu birkat amitzvot. Or, cette bracha qu'on fait avant d'étudier, il dit elle est kmo birkat amitzvot. Je ne sais pas pourquoi il dit kmo, mais bon, on va dire qu'elle rentre dans la catégorie de birkat amitzvot. Or, c'est quoi une mitzvah ? Une mitzvah, c'est un maasé, c'est un acte. Shiou al maasé. Velachen mevarech la'asok batorah ou bedivrei Torah. Donc d'après le Maharal, pourquoi on utilise le terme de la'asok pour que ce soit une vraie birkat mitzvah? Si tu me dis que la birkat Torah c'est une birkat mitzvah, elle ne peut se rapporter qu'à une action. Or si j'avais dit l'ilmod, c'est qu'une machashava.
Ça peut être
qu'une machashava. Tandis que si je dis la'asok, ça veut dire que j'embarque dans la bracha l'accomplissement, entre guillemets, de mon limoud. Il rapporte en note 102, au milieu, ou vers la fin, un Derech Chaim au Perek Dalet Mishnah Yud Dalet qui dit « Ha Talmud eno kmo a Mishnah ». Le Talmud, c'est pas comme la Mishnah. « Les fiches à Mishnah en ba birur advarim le gamre ». La Mishnah ne va pas jusqu'au fond de l'éclaircissement des sujets. Il avait dit, le Maharal, c'est Tzurat à Limoud. C'est la structure du limoud. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu étudies la Mishnah, on va dire que t'as pas besoin forcément de toute ton intelligence, entre guillemets, quoi. On voit que parfois c'est pas simple, là, on est dans les Yevamot en ce moment, même les Mishnayot, c'est pas évident. Mais il n'y a pas, en tout cas, une analyse, on rentre pas dans une analyse fine. On n'est pas dans des raisonnements, etc. On est dans une compréhension du pshat. Parfois, le pshat, il est compliqué à comprendre. Mais une fois que tu as compris le pshat, tu as compris le pshat. Tu rentres pas, tu commences pas à faire des nafkamina et des svarot, et si on avait dit comme ci, si on avait dit comme ça, etc. Donc on voit bien que dans le Talmud, il y a ce inyan de Mahashava, la pensée entre en jeu.
Et tu ne conclus pas dans Halakha, donc ça s'appelle l'étude de la Torah.
Là, on est parti dans une autre direction.
En étudiant la Mishnah.
Ah, en étudiant la Mishnah, est-ce que c'est une étude de l'Halakha? Non, c'est une étude de Torah Shebal. C'est l'étude de Torah Shebal,
mais on, comme on n'étudie pas, on ne conclut pas avec de l'Halakha avec la Mishnah.
Non, on ne conclut pas avec de l'Halakha.
Alors, donc, est-ce que ça s'appelle une étude de la Torah?
Ouais, mais ce que je te dis, c'est que là, il a attaqué sur un autre angle. Le premier angle, c'était de dire que le seul limoud qui est un vrai limoud, c'est un limoud qui arrive à l'Halakha. Et donc, forcément, c'est forcément, comme tu dis, forcément de la Gemara. Et il faut que ça arrive à la Emet. C'est pour ça que comme on n'est pas sûr d'arriver au Emet, on va dire la Asok. Maintenant, il dit il y a une deuxième raison. La deuxième raison, c'est que la Asok, ça sous-entend qu'il y a une action dedans. D'accord ? Or, l'action, elle ne peut pas venir de la Mishnah, elle va venir de la Gemara. Et la Gemara suppose la réflexion. Dans le Tiferet Israël, je lis au milieu de la note 103, au Perek la Metret, qu'est-ce que dit le Maharal ? Lo matzin ou mitzvah la machashava. On n'a pas vu qu'il y a une mitzvah sur la pensée. C'est quoi les mitzvot de la Torah? C'est fais ceci ou ne fais pas cela. Ou memachashava lo shayach lo taase. Klal. On sait qu'il y a quand même des mitzvot dans la machashava. On va voir ça après. Il n'y a pas de lo taase dans la pensée. Des lo nikras et maase. Ça s'appelle pas une action. Veafalgav de dnah à la machashava. Bien qu'on puisse être puni sur une pensée, si une personne, Chasvei Shalom, pense qu'il y a plusieurs divinités, alors il va être puni sur cette pensée. Mikol makom mitzvah lo ta'ase lo shayach. Il dit, ça s'appelle pas une mitzvah lo ta'ase. Il dit, c'est un interdit, mais on peut pas appeler ça une mitzvah lo ta'ase.
Ah, d'avoir une pensée que ça n'existe pas.
Des lo shayach ma'ase b'machashava. Il dit, soit tu es dans la pensée, soit tu es dans l'action. Mais la pensée n'est pas une action. Alors, qu'est-ce qu'il rapporte dans le Gvurot Hashem? On a fait pourri, maintenant on va faire Pessah. Lama en mevachim al agada shel Pesach. Pourquoi on ne fait pas la bracha sur l'agada shel Pesach? C'est mitzvah tassé de la Torah normalement. Vigata levincha bayom ahu, etc. Vire kevan deikar adavar ou bemachashavat alev. Il dit étant donné que l'essentiel de la mitzvah est dans la pensée et la réflexion du cœur, detzech leavin mashiama. Il faut comprendre ce qu'on raconte. C'est pas juste de lire l'agada comme un annuaire. Vekevan shaikar ou balev. Étant donné que l'essentiel se trouve dans la compréhension du cœur. L'oshaya bracha est là be mitzvah sheikar shela be maase. Il dit dans le Talmud Torah, pourquoi on fait la sok be divrei Torah? Shekol esek sheyesh bo Talmud Torah ou a mitzvah. Il dit parce qu'en fait, toute l'excitation qu'il y a dans le limud à Torah, c'est pour le maase. Si on s'excite sur la Gemara sans avoir en vision la halakha, on est à côté de la plaque. De la même manière, le Bet Yosef, dans le Tour Orachaim au Siman Tav Lamed Bet, a écrit que la raison pour laquelle on ne fait pas de bracha sur le Bitul Chametz, mais uniquement sur le Biur Chametz, c'est parce que le Bitul Chametz, c'est Balev, Mevatelo Belibo. Il l'annule dans son cœur. Et donc, il n'y a pas lieu de faire une bracha sur quelque chose qui se passe dans le cœur. Par contre, quand tu vas faire une action qui consiste à brûler ton chametz, Asher, Kideshan, ou Zavet Sivanou, al bio chametz, ça oui. Mais pas sur le bitoul. Kemo chez Pirach, nous, il dit comment l'expliquer. Ad ki nir'e, she'en tsarich levarer, kasher lamed Torah be'yun machashava bilvad. Il dit de là, on voit qu'on ne devrait pas faire de bracha sur la Torah lorsqu'on étudie juste en pensée, en réflexion. Rak tsarich she'ase ma'ase. Uniquement si on fait un ma'ase. Alors, c'est exactement ça, il va citer cette Gemara dans Baba Metzia. Très fort, Hervé. Et le Rav Hartman, dans la note 105, il dit, tu peux poser la question. Elle nous a brûlé l'œil tout à l'heure quand avec ce qu'on a lu précédemment. C'est qu'il y a des mitzvot dans la Machashava. On sait très bien qu'il y a des mitzvot timidiotes, comme on voit dans le Sefer chassidim, dans pas dans sefer chassidim, dans le smak, dans le smak, etc. On voit que il y a les mitzvot midiot, de savoir, il y a avat Hashem, il y a le irat Hashem, etc., etc. Donc le ici il cite le sefer achinuch dans l'agdama qui dit qu'il y a 6 mitzvot permanentes auxquelles on doit penser en permanence. Et donc là il y a aucune action, c'est penser que Dieu est un, penser qu'il est bon, penser que je l'aime, penser que je le crains, etc. Et elle est où l'action? Il y a aucune action. Alors regardez ce qu'il rapporte, c'est extraordinaire.
Ouais, c'est tout ce qui est positif. C'est...
Non, mais c'est des pensées. Ouais, mais c'est des pensées, négatif, c'est des pensées, c'est pas une mitzvah. Alors il dit, Veshamati memori verabi shlita. J'ai entendu de mon maître, donc il parle de Rav Shapira, à Moshe Shapira, Shiaregashot shelahava yira. Il dit que les sentiments d'amour et de crainte de Dieu, nershavot le maase, sont considérés comme des actions. Regardez comme c'est beau. Et là, Shema Simbalev, ce sont des actions qu'il y a dans le cœur. Ou Bekar Gam Maharal Modé Shehen Nershavot les mitzvot Asé. C'est-à-dire que le Maharal lui-même reconnaît que craindre Dieu ou aimer Dieu, même si c'est uniquement dans la pensée, en fait, c'est une pensée qui est tellement épaisse, entre guillemets, au sens de son intensité, qu'elle elle prend presque une forme concrète. Et il continue en disant Veadibur ou Maasé Nershav. Alors si on parle, ça s'appelle un maasé, comme on voit dans la Gemara Baba Mitzia Dav Tzadik Amud Bet, que nous a cité de tête Hervé, Akimat Sfatav Ave Maasé. Le fait de bouger ses lèvres, ça rentre dans la catégorie de maasé. Alors je ne vais pas re-rentrer dans le sujet qu'on avait déjà étudié, y compris dans la Lacha la dernière fois, enfin la dernière fois, une fois précédente, qui est de savoir est-ce que quand on écoute, est-ce que la Shmia est considéré, est-ce que le fait d'entendre un shiur, c'est considéré comme étant une action ou pas? D'accord. Auquel cas, si c'est pas une action, alors il n'y a pas besoin de faire Birkat HaTorah. Si c'est une action, il y a besoin de faire Birkat HaTorah. La conclusion, il y avait plusieurs avis différents.
Je comprends pas quand tu fais Birkat HaTorah tout à l'heure, en fait,
pas pour la raconte. Je me reconnais.
Non, mais disons que tu viens de te réveiller, t'as pas fait Birkat HaTorah. Quelqu'un veut te raconter un Dvar Torah. Est-ce que t'as le droit de l'écouter ou tu lui dis, attends, deux secondes? Je fais Birkat HaTorah, après raconte-moi.
Ah ouais,
ok. Donc, Rabbi Shlomo Kluger, dans Alef Lecha Shlomo, il dit quoi? Il dit qu'on n'est pas Mevarer Shlomo HaShmiya, d'accord? Et d'autres disent qu'au contraire, on est oui Mevarer HaShmiya, parce qu'en fait, on est Shomé HaKeone. Donc Shomé HaKeone, c'est comme si moi-même j'avais parlé, ou encore que même si je ne dis pas Shomé HaKeone, en écoutant ce que dit l'autre, je m'associe à l'acte que lui fait. Et donc si c'est par rapport à mon acte à moi, hein, c'est par rapport à l'acte de l'autre. Et on avait vu à l'époque, on l'avait étudié ensemble, dans le Shulchan Aruch Harav, donc dans le Shulchan Aruch du Admor HaZaken, c'est comme ça qu'il a tranché la halakha.
Hein? Même si c'est en différé.
Ça change pas grand-chose.
Est-ce que tu t'associes, est-ce qu'on considère que tu t'associes aussi...
Ça, on l'avait vu dans le... On avait vu la Chita de Rav Kanevski qui avait parlé là-dessus. Donc, dans le Sharet Shuva, il rapporte les Halachot Ketanot qui disent que le fait d'entendre, c'est mieux que le fait de penser. Grâce à Shomu HaKohene, comme on a dit, rapporte le Lefra Shlomo ici. Et donc, ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est pour ça que j'avais souligné, parce que je savais que tu allais reposer la question. Ve'agaon Rabbi Chaim Kanevski a écrit que chez Kol Shomé Ashiur Bedivre Torah, Filou Bekaletet ou Betelephone, c'est Levarer. Donc il avait tranché qu'il n'y avait pas de problème de synchronicité ou de asynchronicité. Quelle que soit la situation, à la Chalemaase, on doit faire la bracha. Ou Mikol Makom, En Mikan Reaya, qui Efchar Lefaresh Aipur, il dit mais ce n'est pas une preuve, ce qu'on pourrait dire exactement l'inverse, qui Esek Nikra, Kol shemit asek ou poné à la davar. On peut appeler esek toute personne qui s'affaire et qui se dirige vers la chose mot à mot. Afkien kan maase. Moi, j'ai voulu, le Maharal a voulu prouver que on dit la sok bedivre Torah parce que c'est lié à une action. D'accord? Mais tu dis non, peut-être pas. Peut-être qu'on dit la sok bedivre Torah, ça veut peut-être dire que je prends la voiture pour aller au shiur, c'est la sok bedivre Torah. C'est une occupation qui va me mener au divre Torah. Mais c'est pas, je ne suis pas dans l'étude elle-même encore. Afkien kan maase, même s'il n'y a pas d'action de limoud ici. Mikol makom pone elav et osekbo. Il dit dès lors qu'on se dirige vers qu'on accorde son attention au limoud, c'est déjà considéré comme un essek.
Donc une personne qui va travailler...
Ulkar mevachim la'asok. Il dit c'est pour ça...
C'est comme s'il sent qu'il est étudié, c'est comme si qu'il avait...
Répète, excuse-moi, j'ai pas écouté.
Excuse-moi. Toute personne qui va travailler en respectant toutes les règles de l'alaha, qui va se les mémorer, les poids, les mesures, tout ce qui va avec l'alaha, quoi. Sans avoir étudié, on peut estimer qu'il est dans une obligation de faire la bracha.
Alors déjà, un juif étudie tous les jours, forcément.
Non, mais les pratiques, puisqu'on est en train de
parler... Et donc dans la pratique, qu'est-ce qu'on fait le matin? Dès qu'on a fini de faire Birkat HaTorah, on dit Vaidaber Hashem, etc. Donc on dit des psukim. Donc l'idée qu'il y a derrière, comme chacun sait, c'est de commencer sa journée par un limoud, et que tous les autres limouds qu'on va faire dans la journée, ils rentreront dans cette bracha. On ne peut pas dire qu'une personne qui va respecter une mitzvah et fait un limoud à Torah, et même si je suis en train de... Je suis épicier et j'ai comme kavana d'accomplir la mitzvah de Efat Sedek, Vehin Sedek, que mes poids et mesures soient justes comme l'a demandé la Torah. Déjà, c'est qu'une pensée et ensuite c'est une mitzvah. Je suis en train de faire une mitzvah de la Torah, mais c'est pas forcément du limoud, donc on peut pas dire tout est limoud. Pas parler comme ça. Ici, ce qu'il dit, c'est que simplement celui qui est mitasek ou poné el davar, que celui qui se dirige vers, qui est dans l'orientation, qui est dans l'intention de faire une chose, on l'appelle déjà osek, même s'il n'a pas encore fait. Il donne comme exemple dans la Gemara, quand on dit dans Kritot, au dafyut tet amudbet, mit asek bachalavim ve'arayot. Vechen ne'emar, de même c'est marqué après, dans Bereshit, Vaynaga Hashem et Paro, Negaim Gedolim ve'et Beto, Aldevar, Sarai et Shet Avram. On voit que c'est traduit comment dans Nkelos? Al Esak, Sarai et Shet Avram. Il n'a rien fait avec elle, il n'a pas touché. Mais il avait une intention qui était mauvaise. Et donc il était puni pour cette seule intention. Dire que le fait d'avoir eu l'intention d'avoir une aventure, entre guillemets, avec Sarai, ça s'appelle déjà Essek. Donc, ça c'est l'ignaï. Maintenant, l'ishvar, le juif le matin, il a l'intention d'étudier la Torah aujourd'hui, et on prie tous d'y arriver. Alors il dit, la sog me dit vrai Torah. Je dois au moins, le minimum que je peux faire, c'est au moins d'avoir cette intention-là. Dire que je me dirige, je suis dirigé vers cette intention. Sincère. Voilà. Bon, Bezrat Hashem, on continuera ça la semaine prochaine. Avec l'avis de Rabbi Yochanan, qui va approfondir ce inyan de la Sok, mais d'Ivretora, Baruch Adonai Elolam, Amen, Ve Amen.